dit, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Et je ne peux rien. Mais avec toi, je peux tout. Avec toi, je suis quelqu'un. Et je vais te célébrer pour cela. Parce que ma valeur vient de toi. Tout mon être, Seigneur, je te le dois. Merci de bénir ce moment, de communiquer ta parole à ton peuple, de bénir ses lèvres, Seigneur, de les brûler, et permettre que cette parole ait un écho favorable dans le cœur. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Acte 19, 1 à 12. Acte 19, 1 à 12. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?»« Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux et sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Eh bien, ce matin, je continue avec le même thème, le revêtement de la puissance d'en haut. Le revêtement de la puissance d'en haut. Question apparemment inutile, mais cruciale pour tout enfant de Dieu. Cette question est encore d'actualité aujourd'hui. Elle est posée au peuple de la bannière. Avez-vous reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, quand vous avez cru? La réponse des Éphésiens était la suivante. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais je pense que vous ici, vous avez entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit, n'est-ce pas? Entendre dire, c'est une chose. Mais expérimenter le Saint-Esprit, c'est une autre chose. La plénitude, le revêtement du Saint-Esprit est un impératif pour tout chrétien, surtout de nos jours. Il faut absolument rechercher le revêtement de la puissance d'en haut. P. Pourquoi devons-nous chercher cela? Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Conformément à ces passages, la première chose que nous voyons, c'est que les chrétiens revêtus de la puissance d'en haut suscitent une autre génération des chrétiens revêtus de puissance. Paul était revêtu de cette puissance et il brûlait d'envie que les autres expérimentent aussi cela. Et c'était le désir de tous les apôtres. L'Église primitive savait comment reproduire une génération de chrétiens revêtus de puissance. Pas de n'importe quelle puissance, cette puissance d'en haut. Elle prenait soin de communiquer leur expérience ou son expérience aux autres. Lorsque Paul arrive à Éphèse, la première question qu'il pose est celle-là. Avez-vous reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ce que Paul a fait à Éphèse, il ne s'est pas limité seulement à poser la question. Mais Paul a procédé d'abord au baptême d'eau. Ensuite, il a prié. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce que Paul a fait à Éphèse, c'est ce que Pierre et Jean ont fait à Samarie. Les apôtres se sont assurés que les croyants à Samarie avaient reçu les dons de l'Esprit. Dans Actes 8, 15 à 17, la Bible affirme que ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, donc les apôtres, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le baptême, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et c'est ça mon désir pour chaque chrétien de cette église. Il ne suffit pas de venir louer le Seigneur, écouter la parole de Dieu, sortir. Mais il faut que chacun de nous expérimente la plénitude du Saint-Esprit. C'est important. C'est important. Très souvent, on court lorsqu'on a des problèmes. On vient voir les responsables, les encadreurs. Mais le revêtement de cette puissance d'en haut fait toute la différence. Chaque génération doit passer une période de renaissance pentecôtiste. Il nous incombe de transmettre la vie de l'Esprit à nos enfants. Nos enfants spirituels, nos enfants physiques. Est-ce que vous avez déjà prié pour vos enfants? Pour qu'ils expérimentent les baptêmes du Saint-Esprit dans leur vie. C'est important. Un enfant qui expérimente les baptêmes, le revêtement de l'Esprit, sa vie change. On n'a pas trop de difficultés, trop de problèmes avec un tel enfant. Et ce que lui a vécu, il va faire que les siens aussi vivent cela. Alléluia. C'est un transfert. Tu as reçu, tu vas transférer. C'est vrai que dans Actes 1:8, la Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous et vous serez mes témoins. Mais nous sommes des témoins pour communiquer la vie de l'Esprit. Dès que les gens viennent au Seigneur, il faut qu'ils expérimentent la Pentecôte. La Pentecôte. Avec la Pentecôte, les disciples avaient des problèmes, mais ils persévéraient. Les problèmes ne pouvaient pas les arrêter dans leur marche chrétienne. C'était des gens qui persévéraient. Et ils étonnaient les gens. par leur engagement. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui font le délestage. Ce dimanche, il vient à l'église. L'autre dimanche, il ne vient pas. La semaine, n'en parlons même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette flamme de l'esprit. Il n'y a pas cette flamme. On n'a pas expérimenté cela. Nous sommes des témoins pour transférer aussi l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et cela par la prière. Bien-aimés, nous devons éviter l'exemple de Josué. Josué, lui, après Moïse, il a pris la relève. Il a continué avec le peuple. Mais après Josué, nous voyons c'est l'époque des juges. Pourquoi? Parce que Josué n'avait pas pris soin de préparer la relève. Et c'est ce qui arrive aussi dans beaucoup d'églises. On pense qu'on est éternel. Dans nos familles aussi. C'est l'époque des juges. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et Dieu suscitait un juge. Et quand il suscitait un juge, Israël était victorieux devant ses ennemis. Nous devons éviter l'époque des juges dans les églises et dans nos familles. Il faut savoir préparer les autres. On n'est pas éternel. Amen. Et donc il faut retenir que les chrétiens revêtus de la puissance d'en haut suscitent une autre génération de chrétiens revêtus de puissance. C'est comme ça. On se reproduit. On se reproduit. Un canard ne peut pas reproduire une poule. On reproduit selon son espèce. Alléluia. Quelle est votre espèce? La seconde vérité qu'il faut retenir, c'est que le revêtement de la puissance d'en haut permet aux chrétiens de marcher selon la puissance surnaturelle. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a une différence. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais ceux-là qui ont quatre yeux voient cela. Ils savent que vous êtes différents. Alléluia. C'est cela. Il convient de noter que lorsqu'une personne est revêtue de puissance, de la puissance d'en haut, elle se met à parler en langue, bien sûr. Elle parle en langue, c'est ça le premier miracle. C'est ça la première manifestation. Elle parle en langue de façon surnaturelle. Ce n'est pas une langue fabriquée. Ce n'est pas une langue qu'on apprend lors d'une cellule de prière. C'est automatique. Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais dans le passage que nous avons lu, au verset 6, il est écrit, lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça, c'est la première manifestation. Il convient aussi de noter que la puissance de l'Esprit se manifeste par d'autres moyens. Ce n'est pas seulement le parler en langue, il y a aussi les témoignages. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de la parole de Dieu. Il est rempli de l'envie de parler de Christ. C'est les témoignages. Je connais un papa, il est décédé. Il était directeur à la Banque Nationale et puis finalement, le Seigneur l'a appelé. Il savait que j'étais converti et que j'étais déjà pasteur. Mais quand il me rencontre, il dit, mon jeune frère, il faut te convertir. Je dis, je suis déjà converti. Ça brûlait dans son cœur. Ça brûlait dans son cœur. Le témoignage, ce n'est pas une affaire seulement du département de l'évangélisation. C'est l'affaire de chacun de nous. Et si chacun de nous se met à témoigner, frères et sœurs, nous aurons plus que 3 cultes et tout cet endroit sera plein. Là, on compte quelques personnes. Il y a d'autres moyens lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Des moyens par lesquels la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Il y a aussi l'amour les uns pour les autres. On va aimer les autres. Mais dans l'église, il y a des gens qui viennent. Tel vient comme ça, l'autre vient là-bas, on voit son voisin, son frère ou sa sœur, on prend une autre direction. Là, c'est difficile. Il y a l'amour les uns pour les autres. Et tu aimes même les non-aimables. Ou les moins aimables. Tu vas l'aimer. Tu vas les aimer. Parce qu'il y a cette flamme en toi. Tu le regardes avec les yeux de l'esprit. Avec les yeux de Dieu. Tu veux que ces gens soient sauvés. Et même si quelqu'un t'a fait du mal, tu pardonnes. Je dirais qu'il convient aussi de noter que la puissance de l'esprit se manifeste par d'autres moyens. Il y a aussi la capacité de mener une vie chrétienne appréciée de tous. Quand on te voit, on dit ça c'est un chrétien. Mais dans certains quartiers, vous arrivez, vous dites, mais notre frère tel, est-ce que vous connaissez tel frère ou telle sœur? Azalaka sœur, Azalaka frère. On ne sait pas que tu es frère. On ne sait pas que tu es sœur. Tu caches ton identité. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, quand il y a cette flamme, on révèle son identité. Il y a aussi les miracles et les prodiges qui se font. Les miracles et les prodiges. Les signes de tout genre. Le même passage que nous avons lu au verset 11 et 12. La Bible dit, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs, des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. » Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ah oui, il y a des miracles. Dieu fait des miracles. Il y a une jeune femme qui vivait avec le mari d'autrui. Et cette jeune femme est allée voir un féticheur pour qu'on tue cette femme. Et qu'elle prenne la place de cette femme. Mais cette femme, c'était une femme revêtue de la puissance d'en haut. Elle priait le Seigneur. Elle craignait Dieu. Et quand cette copine a vu le féticheur a dit, bon, attends, nous allons essayer d'invoquer son esprit et dès que son esprit, on voit son image, on met l'aiguille, et si le sang apparaît, c'est que c'est fini, elle est atteinte, et bientôt elle va mourir. Mais le monsieur a fait cette incantation, elle a fait tous les gestes possibles pour invoquer l'esprit de cette dame. Mais puisque la dame était branchée, elle était revêtue de la puissance d'en haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Le miroir a éclaté. Ça s'est cassé. Et le féticheur a dit, oh, et bébé. C'est fini, c'est détruit. Quelque chose va nous arriver. Si ce n'est pas à toi, c'est à moi. Oh, le féticheur ne peut pas mourir. C'est la dame qui va mourir. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Cette dame est cachée à un endroit difficile. je vois, c'est difficile. Alors, c'est une femme qui prie. Elle ne priait pas seulement. Elle était revêtue de la puissance d'en-haut. Alléluia. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Mais ces choses sont vraies. Elles sont réelles. Il y a un fait autour de ceux-là qui sont revêtus de cette puissance d'en-haut. Personne ne peut t'atteindre. Personne ne peut te toucher si Dieu lui-même n'autorise pas cela. Vous savez ce que cette femme a fait? Elle a vite couru voir cette dame. Et elle lui a dit la vérité. Je suis allé voir tes féticheurs pour te tuer parce que je voulais prendre ta place. Mais ce qui est arrivé là-bas, c'est bizarre. Moi-même, je risque de mourir. Je viens demander ton secret. Et la dame a rigolé, dit, nous allons prier. Tu ne vas pas mourir. Accepte Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Et laisse cette vie-là sale et sordide. La dame a prié pour elle. N'est-ce pas un miracle? Dieu fait des miracles. Il fait des prodiges. Bien aimé, contrairement à d'autres types de puissances, la puissance de l'Esprit de Dieu est illimitée, car elle émane de Dieu lui-même. Dieu est cette source de cette puissance. C'est plus qu'une dynamite. Vous recevrez une puissance. Le mot puissance vient de dynamis. Une dynamite pour faire éclater les miroirs. Pour confondre l'ennemi. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Nous connaissons la puissance de Simon le magicien qui étonnait les gens. C'est toujours dans Acte 8. Simon le magicien étonnait les gens par ses actes de magie. Et sa puissance était appelée la grande. Mais face à la puissance de Dieu, manifestée à travers le ministère de Pierre et Jean, Simon lui-même s'est vu tout petit. Il a vu que sa puissance était impuissante. Inefficace. Il a cherché à avoir le pouvoir qu'avaient Pierre et Jean. Lorsqu'on est revêtu de cette puissance, c'est toujours différent. C'est toujours différent. Nous connaissons le récit de Moïse. La verge et les magiciens de Pharaon. Moïse a jeté la verge. Cette verge s'est transformée en serpent. Pharaon a appelé les magiciens d'Égypte. Ils sont venus nombreux. Ils ont jeté aussi les bâtons qui sont devenus des petits serpents. Mais les gros serpents de Moïse a avalé tous ces petits serpents à dos du banc. Dieu a demandé à Moïse de reprendre sa verge. Il dit, tiens le serpent par la queue. Et quand il a pris, il a tenu, c'était devenu la verge. Il a repris son bâton. Mais les magiciens d'Égypte sont repartis sans leur bâton. La puissance de Dieu avale toutes les puissances. Alléluia. Elle avale toutes les puissances. Et cette puissance s'obtient dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la communion avec le Seigneur. Et enfin, bien-aimé dans le Seigneur, la dernière pensée c'est que le revêtement de la puissance d'en haut accroît l'intensité de la vie de prière du chrétien. Cela accroît l'intensité. Tu vas aimer prier. Tu vas aimer la présence de Dieu. Tu vas aimer l'Église. Tu vas aimer la parole de Dieu. La vie de prière sera ton activité. Les chrétiens revêtus de la puissance d'en haut sont connus pour leur vie de prière. Jésus lui-même était revêtu de cette puissance d'en haut, parce que la Bible dit qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Dans Actes 1, 35, il est écrit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Où il pria. Il lui est arrivé de prier toute la nuit, Jésus. Et il priait avant de prendre des décisions importantes. Le revêtement de la puissance d'en haut transformera votre vie de prière. Vous ne prierez plus comme avant. Vous prierez plus qu'avant. Parce que le Saint-Esprit lui-même vous aidera dans votre prière. Amen. Le Saint-Esprit va vous aider à prier. Dans Romains 8, 26 à 27, la Bible dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier en langue. Et quand tu vas manquer des mots, c'est des soupirs. Et même ces soupirs-là, Dieu sait ce qu'il y a. Alléluia. Dieu sait ce qu'il y a. Bien-aimé, lorsqu'on est revêtu de cette puissance d'en haut, on va aimer la vie des prières. On va prier, nuit et jour. Ce ne sont pas des sujets de prière qui manquent, mais c'est tout simplement parce qu'on est faible spirituellement. Lorsqu'on est revêtu de la puissance d'en haut, on devient fort spirituellement. On peut prier des heures. Mais lorsqu'on est faible, c'est des prières flash. On est pressé dans la prière. Mais on a des sujets de prière. Vous pouvez prier pour votre pasteur. Alléluia. Vous pouvez prier pour les responsables de l'Église. Vous pouvez prier pour les églises aujourd'hui dans le pays, des églises qui font des scandales. Vous pouvez prier pour le pays. Vous pouvez prier pour l'est du pays. Vous pouvez prier pour votre propre famille. Vous pouvez prier pour votre progrès spirituel. Vous pouvez prier pour votre famille. Ce ne sont pas des sujets qui manquent. Vous pouvez prier pour des chrétiens qui sont tués dans les pays où l'évangile est interdit. Vous pouvez prier, prier. Ce ne sont pas des sujets qui manquent. Mais c'est la faiblesse spirituelle. Ce qui peut ôter la faiblesse spirituelle, c'est le revêtement de la puissance d'en haut. Alléluia. Paul lui-même disait qu'il priait en langue plus que nous tous. Plus que tous. Et il encourage les chrétiens à prier sans cesse et même à prier même pour les autorités. Prier même pour les autorités. Ce ne sont pas des sujets de prière qui manquent. Et laissez-moi vous dire que le revêtement de l'esprit Les disciples ont expérimenté cela. Le revêtement de la puissance en haut, ils ont expérimenté cela dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Et cela plusieurs fois. Plusieurs fois. Cela vient dans la prière et ça continue avec la prière. Est-ce que vous entendez bien? Ça vient dans la prière et ça continue avec la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, en définitive, vous pouvez tout oublier, hein? Mais retenez ceci. Les chrétiens revêtus de la puissance d'en haut suscitent une autre génération de chrétiens revêtus de puissance. Si vous êtes revêtus de puissance, de cette puissance, vous allez vouloir que ceux-là qui sont avec vous, vos enfants, dans la chair et en esprit, soient aussi revêtus de cette puissance. Vous savez, les enfants sont partout, on a des frères et des sœurs qui ont des enfants ailleurs. Même s'ils sont ici, comment vous allez les protéger? C'est Dieu qui protège. Le revêtement de la puissance d'en haut permet aux chrétiens de marcher selon la puissance surnaturelle. La puissance surnaturelle. Si vous lisez dans Actes 4 et 5, vous allez voir que les disciples étaient arrêtés, jetés en prison. Mais là, le Seigneur a mis en mouvement ses anges. L'ange est venu les sortir de la prison. Et il leur a dit, rentrez encore dans les temples, prêchez la parole de Dieu. Pendant qu'ils cherchaient les disciples, quelqu'un vient leur dire, mais ceux-là que vous cherchez, mais ils sont dans les temples en train de prêcher. Et ils étaient troublés. La puissance d'en haut trouble les inconvertis. Et même le cas de Pierre lui-même. Le Seigneur a permis que l'ange le sorte de la prison. Le revêtement de la puissance d'en haut permet aux chrétiens de marcher selon la puissance surnaturelle. Surnaturelle. Et enfin, le revêtement de la puissance d'en haut accroît l'intensité de la vie des prières des chrétiens. Êtes-vous revêtu de la puissance d'en haut? Sommes-nous revêtus de la puissance d'en haut? La réponse est personnelle, individuelle. Nous courbons nos têtes et nous prions. Tous ces temps, les mercredis, les vendredis, nous prenons ça pour cette prière. Le revêtement de la puissance d'en haut. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour prier maintenant. Mais la semaine, nous sommes là, nous prions pour ça. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu sois revêtu de cette puissance d'en haut. Ça fera toute la différence dans ta vie. Mais avant d'être revêtu de cette puissance, il y a une première étape. C'est accepter Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel. As-tu accepté Jésus dans ton cœur? L'as-tu reçu avant de recevoir l'Esprit de Dieu? Oui, on reçoit l'Esprit de Dieu quand on reçoit Christ. Mais il faut la plénitude. C'est ça la Pentecôte. Si tu as été touché par ces messages, tu aimerais que nous puissions prier pour toi. Lève ta main là où tu es, nous allons prier ensemble. Tu peux lever ta main rapidement et nous allons prier ensemble. Merci. Merci pour ceux qui lèvent leur main. Levez bien votre main. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ces mains levées. Gloire au Seigneur. Vous qui avez levé vos mains, alors que nous avons nos yeux fermés, levez-vous là où vous êtes. Tenez-vous sur vos pieds. Alléluia. Il n'y a pas de spectacle. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux. Au contraire, vous avez besoin de vous lever aussi. Merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Merci, frère Ernest. Viens prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur.
Précieux Père Céleste, tu nous aimes réellement. Parce que Seigneur, ce matin, tu as envoyé ta parole. Et cette parole nous libère et nous guérit. C'est pas pour rien que tu envoies encore cette parole pour la deuxième fois. Dimanche passé, c'est dimanche. Parce que tu as vu qu'il y a un problème. Et ce problème, Seigneur, c'est notre mollesse, notre faiblesse, pour désirer ardemment le revêtement. Et c'est comme ça que tu viens nous parler encore, Seigneur. Oui, cette parole s'adresse à nous tous, pour que, Seigneur, nous prenions la décision de désirer le revêtement, car sans lui, nous ne pourrons rien. Nous serons déclassés, Seigneur. Alors, vivement ce matin, que ta grâce soit notre partage, Seigneur. Soit notre partage, pour que nous soyons forts dans la prière, dans la communion et dans la crainte de ton nom. Parce que Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, tu le dis. Et toi, c'est le Saint-Esprit. Alors Seigneur, tu vois le peuple que nous sommes devant toi ce matin. Prends pitié, relève, secours, et crée en nous le désir pour que nous soyons différents dans ce monde et que nous attirions des multitudes pour toi et pour le royaume. Merci pour cette parole. Et merci pour ce moment de consécration au revêtement de la puissance d'en haut. Nous nous consacrons à toi ce matin, Seigneur. Prends pitié. Viens nous en aide. Merci d'accueillir aussi, Seigneur, dans ta maison tous ceux qui t'ont accepté ce matin comme Seigneur et Sauveur. Parce que ils participent à ces revêtements déjà ce matin. Merci, parce qu'une fois encore, tu continueras à garder et à donner de la force à ton serviteur, ô Éternel, pour qu'il continue à nous introduire ainsi dans ta félicité. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.
Amen. Vous pouvez reprendre vos places. La semaine, il faut passer et nous aurons des moments de prière intenses. Amen. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Docteur Irunga, avancez.
Père, nous te bénissons, te rendons des multiples des actions de grâce, parce que tu nous aimes. Merci parce que ce matin, tu as renouvelé en chacun de nous ton souffle de vie. Par ton amour, tu nous as conduits en ces lieux pour communier avec toi. Et maintenant, tu viens de nous parler. Au travers de ta parole, tu as mis un accent particulier sur le revêtement de la puissance d'en haut. Oui, Seigneur, nous voulons que cette parole demeure dans nos cœurs, qu'elle reste une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, afin que nous puissions la communiquer aux autres, pour qu'ensemble nous puissions hériter de la vie éternelle. Oui, maintenant que nous nous rappelons que tout vient de toi et que nous voulons t'offrir les fruits de nos mains, Seigneur, pense à toute main qui sera glissée dans le panier. Bénis-la au centuple. Pense à ceux qui n'en ont pas. Bénis-le pour les prochaines fois. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.